Tout de suite, on commence avec vous, Antoine Denecher, et votre journal. Bonjour.
Bonjour.
Une très large partie de ce journal sera consacrée à l'assassinat d'un prêtre hier matin dans une église près de Rouen, Antoine Denecher.
Oui, le père Hamel a été égorgé en pleine messe à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les deux assaillants ont été tués par la police. L'attaque est revendiquée par Daesh. À droite, le président du parti Les Républicains appelle à une riposte impitoyable et juge, je cite, que les arguties juridiques ne sont pas admissibles. Faire face à la violence, ce sera le thème de la première partie des matins, Olivier Gesbert.
Face à la violence et contre la peur, nous avons tant de choses à nous dire. Ce matin, nous rouvrons le dialogue entamé par le père Christian Delorme et l'islamologue Rachid Benzine. Et nous verrons avec Marc Répond la place à redonner aux idées pour nous aider à affronter nos peurs et à résister face à cette vague de violence inouïe et surtout sans fin. Dans le reste de l'actualité, Antoine.
En fin de journal, nous reviendrons sur la légère hausse du chômage observée en France le mois dernier. L'inversion de la courbe est-elle toujours possible ? La France est la cible de l'organisation État islamique, on le sait, et dans toutes ses composantes, puisqu'après les attentats de l'an dernier, après celui de Nice, il y a moins de deux semaines, les terroristes, cette fois-ci, ont tué un prêtre, évidemment le symbole est très fort. Le père Jacques Hamel, 86 ans, a été égorgé en plein office religieux hier matin devant les quelques fidèles présents dans cette église de Saint-Étienne-du-Rouvray, commune d'environ 30 000 habitants, dans l'agglomération de Rouen. Lors de la prise d'otage, un paroissien de 86 ans a été grièvement blessé, mais ce matin, ses jours ne sont pas en danger. Une religieuse ayant pu sortir et donner l'alerte, les policiers de la BRI sont intervenus rapidement et ont tué les deux assaillants. Une heure plus tard, lorsque ceux-ci sont sortis sur le parvis, l'un d'eux d'ailleurs portait une arme de poing. Dans l'après-midi, je vous le disais, Daesh revendiquait ce nouvel attentat en France. Et en soirée, François Molins, le procureur de la République de Paris, en a dit plus sur le profil d'un des deux tueurs, un jeune homme de la commune d'ailleurs, Jean-Philippe Degnaud.
Adel Kermich n'a pas encore 18 ans quand il entame un premier départ en Syrie en mars 2015. Interpellé à Munich avec la carte d'identité de son frère, il est remis à la France où il est une première fois mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. 6 semaines plus tard, deuxième tentative, mais c'est cette fois à Istanbul avec les papiers de son cousin qu'il se fait arrêter et renvoyer en France. Il est alors placé en détention provisoire et au bout de 10 mois, les juges le remettent en liberté avec assignation à résidence au domicile familial, placement sous bracelet électronique et une autorisation de sortie du domicile limitée à 3 heures par jour en semaine, de 8h30 à 12h30. C'est dans ce laps de temps qu'il a commis l'attentat à l'église Saint-Étienne. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas encore formellement identifié le second assaillant. On ne sait pas non plus quel type de lien les deux terroristes entretenaient avec l'État islamique et, si c'était le cas, dans quelle mesure ils n'ont pas été repérés dans la préparation de l'attentat.
Alors l'Église catholique évidemment a réagi rapidement hier. L'évêque de Rouen, présent à Cracovie pour les Journées mondiales de la jeunesse, est rentré en urgence en Normandie. Pour lui, je cite, « il n'y a pas d'autres armes que la prière et la fraternité. Le Vatican a condamné un meurtre barbare et une violence horrible intervenue dans une église, un lieu sacré où s'annonce l'amour de Dieu. L'imam de Saint-Étienne-du-Rouvray dit avoir perdu un ami avec qui il discutait souvent de religion et de savoir-vivre ensemble. Le Conseil français du culte musulman a également réagi et a répondu à ceux qui disent que les responsables musulmans doivent agir face à la radicalisation. Écoutez Abdallah Zekri, son secrétaire général.
C'est un discours qui n'a aucun sens, c'est la démagogie. Les responsables musulmans ne sont pas ni des services de police, ni des services de justice. Ceux qui ont commis ces crimes tous ces derniers temps ne sortent pas des mosquées. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le culte musulman. Donc on arrête à nous dire, à nous de réagir. On réagit à chaque fois qu'il y a eu des attentats, on a réagi. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus de réactions? Vous savez, on est impuissants devant ce qui se passe. Nous aussi, ce prêtre nous a bouleversés. Un dignitaire de 84 ans qui a été égorgé par un lâche, c'est un acte terrifiant. On ne peut pas se prétendre musulman et puis commettre de tels massacres. Les terroristes veulent un petit peu une guerre de civilisation. Ils veulent diviser les Français. J'espère qu'ils ne vont pas arriver. En tout cas, ils sont arrivés à diviser les hommes politiques. Le discours qu'on entend actuellement, c'est indigne. Au lieu d'être solidaire, au lieu de penser aux familles, penser aux blessés, ça nécessite une mobilisation de toutes les énergies et une cohésion de l'ensemble de la communauté nationale pour essayer d'éradiquer ce fléau qu'est le terrorisme.
Alors vous l'avez entendu, le représentant du Conseil français du culte musulman, interrogé par Hélène Masquelier, fait référence aux réactions politiques. Le président de la République, en effet, s'est rapidement rendu à Saint-Étienne-du-Rouvray en compagnie de Bernard Cazeneuve avant, hier soir, depuis l'Élysée, d'appeler les Français à faire bloc tout en refusant de déroger aux règles du droit constitutionnel, comme l'avait demandé un peu plus tôt une partie de l'opposition, Stéphane Robert.
Il faut aller plus loin, beaucoup plus loin dans les mesures sécuritaires, nous dit Nicolas Sarkozy. Le président de Les Républicains, pas encore candidat à la primaire à droite, enjoint François Hollande et le gouvernement à reprendre les mesures qu'il propose, quitte à créer une justice d'exception et à enfermer des gens sur la base du soupçon.
Notre ennemi n'a pas de tabou, n'a pas de limite, n'a pas de morale. Nous devons être impitoyables. Les arguties juridiques, les précautions, les prétextes à une action incomplètes ne sont pas admissibles.
Mais à droite, on sent qu'il y a une fracture entre ceux qui font dans la surenchère, dans le sillage du FN, et ceux qui en appellent à rester dans la mesure. Jean-Pierre Raffarin, par exemple, mettait en garde hier contre le piège tendu par les terroristes d'une guerre des religions. Alain Juppé semblait lui aussi revenu à la modération, appelant, je cite, « à nous battre avec colère mais avec nos valeurs, celles de la République ». Pour autant, on sent qu'il y a de la fébrilité chez nos responsables politiques, même chez les centristes, comme l'ancien ministre Hervé Morin.
Ceux qui sont reconnus comme dangereux par la police, il faut les mettre hors état de nuire, en les isolant, en les mettant en situation de ne pas pouvoir menacer la société française. Que ceux qui rentrent de terre de djihad fassent l'objet de procédures pénales. Voilà, on a toute une série de mesures qu'il nous faut prendre.
Alors comment faire face à la menace? Comment ne pas céder à l'émotion? Peut-on prendre des mesures potentiellement liberticides et antidémocratiques au nom de la défense de notre République? Bref, jusqu'où peut-on aller? Pour le moment, nos responsables politiques semblent avoir un peu de mal à répondre à ces fondamentales et difficiles questions.
Et dans ce contexte, la publication des chiffres du chômage en France pour le mois de juin est passée quasi inaperçue hier soir. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a légèrement augmenté, plus 0,2% le mois dernier, après déjà une petite hausse en mai. Le ministère du Travail a beau souligner que la tendance reste clairement orientée à la baisse sur les 6 premiers mois de l'année 2016. La fameuse inversion de la courbe se fait attendre, Jean-Marc Chardon.
Cette inversion, elle a paru imminente à la sortie de l'hiver avec 2 mois consécutifs de baisse et de baisse sensible. Mais voilà, depuis le mois de mai, chargé en grève, perturbé par des problèmes d'approvisionnement, compliqué par des inondations exceptionnelles, le mouvement semble marquer le pas. Le mois de juin allait-il faire mieux avec les rendez-vous de l'euro? Même pas. Certes, l'emploi intérimaire a fait un bond de 5,7% sur cette période. Dans les transports, le BTP, l'activité a redoublé, mais globalement, cela ne s'est pas traduit par beaucoup de créations d'emplois. 500 créations effectives. Seulement très peu, si l'on en croit les données du dernier rapport de la société de conseil ADP. Le secteur industriel aurait perdu le mois dernier 2300 postes. Ce sont les services, surtout les services financiers, qui auraient fait la différence. On est donc apparemment loin des 40 000 nouveaux emplois marchands du premier trimestre. En revanche, c'est vrai, les envois en formation jouent de plus en plus comme un remarquable appel d'air pour sortir des fichiers de Pôle emploi. En juin, près de 90 000 personnes sont ainsi sorties des catégories A, B et C. Et ce mouvement, il devrait s'amplifier au cours des mois à venir, permettant de dégonfler un peu le chômage.
Un mot sur la convention démocrate aux États-Unis. Hillary Clinton est devenue cette nuit la première femme officiellement investie par un des deux grands partis. Dans une vidéo diffusée à Philadelphie, elle a lancé « Quelle journée et quelle soirée extraordinaire ! Nous venons d'atteindre un coup sans précédent au plafond de verre. » On y reviendra à 8h avec notre correspondant Frédéric Carbone. La météo grise et humide dans le nord-ouest, instable sur le relief mais ensoleillé sur le reste du pays. Température de 19 en Bretagne cet après-midi à 35 près de la Méditerranée.